Les Comics est une émission présentée par Guillaume Hébrard et Landry Passat. Bon petit-déj et bonne écoute à tous. Salut à tous et bienvenue sur Vancouver pour ce Café Comics numéro 10. Comment ça va mon petit Landry ?
Salut à tous, 10 épisodes déjà, 15 jours sont passés, bref, la vie est belle et... Ah, c'est le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on aime ça, le mois de septembre.
On ne les a pas vu passer ces 15 jours,
tout à fait.
Bon, écoute, on va s'y mettre vite fait, là. De quoi, de quoi tu vas nous parler, mon petit?
Alors, de quoi vais-je vous parler? Vous savez que l'épisode numéro 9, qu'on avait du mal à numéroter, d'ailleurs, parce que c'était la reprise, j'avais commencé à dire plein de mal sur le MCU, à un moment donné, et en rappelant que le goût du popcorn est souvent la seule chose dont vous vous rappelez à la sortie d'un film du MCU. Donc je fais ça pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui prennent notre podcast en cours et qui tombent sur ce numéro 10 comme ça. Ils disent, qu'est-ce que c'est ces guignols? J'avais dit beaucoup de mal sur le MCU. Donc je me suis dit, il est temps de se racheter en parlant d'une production Marvel récente, en tout cas récente dans le sens où voilà, quelques mois pour les amateurs de VO et qu'elle est en cours pour les amateurs de VF. D'accord. Il s'agit du crossover Avengers X-Men Eternal Judgment Day.
Oh putain. Tu vas dire du bien de ça?
Alors, est-ce que je vais dire du bien de ça? Je vais vous dire que le pitch est vraiment intéressant, enfin, marrant, l'idée est marrante. Alors si vous n'avez pas lu les X-Men récemment et que pour vous c'est encore des mecs coincés dans une école et pré-ado, j'ai envie de dire c'est un petit peu quand même chose que pour Watchmen dans l'épisode 9, cassez-vous. Sinon, les X-Men ont fondé leur propre pays, ils ont mis au point des technologies mutantes absolument incroyables et ils ont maîtrisé la résurrection. Et le problème, si vous voulez, c'est que dans l'univers Marvel, il y a d'autres personnages, comme par exemple les Éternels, qui sont littéralement, et c'est dans le titre, des Éternels. Des espèces de super-héros depuis toujours, pour guider l'humanité, enfin bon bref, et combattre la menace des déviants. Le problème, c'est que pour les Éternels, les mutants X-Men, c'est des déviants. Et des déviants qui ont découvert une technologie qui leur permet d'être quasiment leur égo. Donc, s'ensuit une grosse baston avec les Avengers au milieu qui font « S'il vous plaît, vous battez pas !» Et qui, bien entendu, trouvent des solutions pour arrêter le conflit qui sont encore plus catastrophiques que s'ils n'avaient rien fait. Gros, c'est ça le pitch. Alors, le pitch sur le papier, il est intéressant. Évidemment, Marvel essaye, faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y a eu un film absolument oubliable sur les Éternels. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est des crossovers où clairement on essaye de dire bon, si jamais ça plaît au cinéma, on a des BD, achetez nos livres. Donc, l'idée sur le papier est particulièrement intéressante. Par contre, avec cette idée d'essayer de vendre finalement des Éternels parce qu'il y a eu un film MCU il n'y a pas très très longtemps qui a finalement excusez-nous, c'est les fous rires de...
J'ai une image, je vous raconterai ça un jour. Vas-y.
Ce film là qui était particulièrement stupide, pas très très intéressant on va dire, donne lieu à un crossover chez Marvel en BD qui tente finalement de jouer sur on a les personnages, on a fait un film dessus. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Sur le papier, on sent que c'est une grosse vente en vue parce que Avengers, X-Men, Eternal, j'ai envie de dire, Marvel ratisse large. Est-ce que c'est une bonne histoire pour autant à l'arrivée? Comme tous les crossovers event chez Marvel depuis quelques années, non. Clairement, non. C'est ça le problème. Alors, est-ce que vous avez envie de lire? Moi, j'ai envie de dire, si vous êtes un complétiste, si vous suivez les X-Men, si notamment depuis l'ère, on va dire, Immortal X-Men, actuellement en pré-publication chez Panini, de toute façon, vous n'allez pas faire l'impasse dessus, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre à vos revues habituelles, puisque... il se passe plein de choses dedans, ça a ni queue ni tête dans les bouquins, et il faut lire le Judgment Day, qui est en 3 volumes chez Panini. Panini a au moins le bon goût de publier ça en 3 volumes, c'est-à-dire, ça va vite les gars, ça prouve qu'on a confiance dans le produit. Généralement, quand tu publies ça très vite, expédies ça très vite, c'est que t'as pas confiance dans le produit.
Ah ouais, allez-y, lisez.
Lisez vite, hein, voilà, complétude, et puis on passe à autre chose. Bon, voilà, alors c'est toujours pareil. Moi, je trouve que les X-Men, d'une manière générale, c'est intéressant depuis depuis Hickman. Avec des hauts et des bas, ça fait quand même 3-4 ans maintenant que les X-Men sont redevenus une série à suivre chez Marvel, avec des hauts et des bas, hein, c'est-à-dire que Immortal X-Men, bon, c'est peut-être moins pertinent, mais en tout cas tout ce qu'avait fait Hickman et puis toute cette idée d'une nation mutante qui a forcément des technologies surdéveloppées puisque ce sont des mutants.
Ouais.
Ben, l'idée est quand même bien, ça change du côté, ils sont dans une école, hein, et puis ils font semblant d'être des humains normaux et ils ont honte de ce qu'ils sont. Voilà. Mais moi, je trouve y a ce côté-là, il y a un côté qui est quand même très intéressant. Il y a des défauts. C'est très communautaire aujourd'hui, les X-Men, c'est-à-dire qu'on a des années-lumière de la tolérance qui était prônée dans les premières histoires, voire même dans les X-Men, on va dire, période Claremont de la fin des années 70 et jusqu'aux années 90. On est très très loin de ça, c'est très communautaire. Ouais. Hein. Bon, voilà, après, je pense que c'est l'époque aussi qui veut ça. Mais ça reste à lire. Alors bon, bah, tu demandais, c'est de donner une petite chance, hein, c'est 16 balles le volume, donc si vous avez... voilà, si vous avez envie de...
Hein, alors, est-ce que c'est au niveau lecture, est-ce que c'est du niveau de AVX ? Qui est une grosse merde.
Alors, AVX, oui. c'est-à-dire que... Alors, je pense que ça n'aura pas les mêmes répercussions, mais je m'avance un peu, je suis au deuxième volume, et donc on va dire que j'ai lu les deux tiers de l'histoire, hein, j'ai bientôt fini. Je pense que ça n'aura pas le même genre d'impact, parce que c'est toujours pareil. Quand tu mets une menace trop grande, trop cosmique, c'est très compliqué après d'en tenir compte dans des séries où globalement les New-Yorkais vivent comme si rien ne s'était passé, alors que globalement c'était la Troisième Guerre mondiale deux jours avant.
J'ai trouvé quelques résultats sur le web.
Donc,
je peux vous les montrer si vous
voulez. C'est toujours pareil. Là, c'est Siri qui s'est énervé.
Voilà une station de radio créée juste.
Voilà, bon, bref. C'est là. Voilà. Dis Siri, stop. Voilà.
Putain, l'épisode maudit, quoi.
Ah oui, le 10, hein, voilà. Mais surtout, c'est celui qui va faire du montage qui va déconner.
Non, ça va. Mais je vais tout garder.
Non, tu veux tout garder ? Ouais, d'accord. Tant mieux, encore mieux. bref, pour revenir, donc, puisque tu vas tout garder. Non, en tout cas, voilà. Est-ce que c'est une bonne lecture ? Ouais, je sais pas, en fait. Je voulais en parler, justement, parce que c'est le cas d'école. Hein. Marvel, nous avons un tous les 6 mois, à peu près, de crossover. Parfois, il y en a y a de bonnes surprises. Hein. Celui avec les Venom, là, il n'y a pas très longtemps, là, je me rappelle plus le truc.
King in Black. Moi, j'ai bien aimé, ouais.
Voilà. Mais parce qu'il était sans prétention, tu vois. Là, celui-là, il est très prétentieux, donc du coup, il n'est pas bien. Voilà. Honnêtement, si vous voulez jouer les events, je sais que le Chant du Bourreau va être bientôt réédité en collection Marvel Epic, il me semble.
D'accord.
Executioner Song, truc de ce genre-là, ouais. Des années 90. Le Complot Phalanx mériterait d'être réédité.
Tout à fait.
Onslaught a été réédité un nombre de fois absolument incalculable. Mais on va dire que Marvel sait plus faire des crossovers, puisque au fond. Avant, on avait une idée et on l'a développée sur plusieurs séries. Ça permettait de vendre de la série, trucs comme ça. Aujourd'hui, globalement, là, c'est une tarte à la crème. Hein. Il faut rappeler aux gens que les Avengers existent et qu'il y a des films qui sortent bientôt. Que les X-Men, il y aura forcément des films qui sortiront bientôt. Et que les Éternels, c'est sorti. Et que si vous vous en souvenez plus, c'est normal. C'est comme tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, les Éternels, de base, dans le film, je suis désolé de dire ça, mais c'est le même truc. C'est tellement énorme que plus personne ne s'en souvient et plus personne dans le MCU ne parle de ce qui s'est passé, alors que techniquement, voilà. Donc c'est toujours un peu le même problème, j'ai envie de dire, de ces trucs trop énormes pour être honnête. Ça accouche souvent d'un pétard mouillé. Et c'était ma petite c'est pas un coup de gueule, mais je veux dire, C'est ma petite critique de l'édition de bande dessinée américaine en ce moment.
D'accord. Allez, moi je vais vous parler d'une... Alors, j'ai fait quelques recherches pour un projet personnel cet été. Et je suis tombé sur un comic book que je ne connaissais pas par un éditeur dont je... Allez, je vais le dire. C'est un éditeur qui s'appelait Amigo Comics. Et en fait, Amigo Comics, c'est quoi ? C'était des Espagnols qui publiaient aux États-Unis. Donc, on connaît le talent des auteurs espagnols, hein, autant scénaristes que dessinateurs. Il y a de grands dessinateurs de comics espagnols. Hein, en ce moment, je pense à Juan Roserip ou autre. Mm-hmm. Et bien là, alors en fait, c'est une série, mini-série d'horreur qui s'appelle Roman Ritual, qui fait très penser à l'exorciste. Donc c'est qui fait très penser d'ailleurs, c'est pas français qui fait beaucoup penser. Donc c'est scénarisé par El Torres, qui est un petit peu le ponte de cette maison d'édition, je crois que c'était à lui à un moment donné. Ouais. Dessiné par Jaime Martinez. Alors Roman Ritual, c'est quoi? C'est un peu, alors déjà le ton c'est vachement l'exorciste, quoi. Tu vois, ouais. C'est de l'exorcisme sale, crade, tu vois, vraiment un truc.
Voilà. Et ça passe bien en BD ?
Question ça passe de... super bien en BD. Après, ouais. Après, ça dépend du dessinateur aussi, hein, voilà. Je pense. Ouais. C'est pas Jim Chung qui va te faire un truc comme ça, par exemple.
Voilà.
Mais non, c'est très dark, très sale, très crade. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est, comment il s'appelle déjà ? John Brennan, qui est un prêtre un petit peu rebelle, tu vois. Alors, c'est pas Constantine, mais presque. Hein. C'est le mec qui boit beaucoup, qui fume, qui a vu des trucs pas terribles dans sa vie. Et du coup, bon, voilà. Donc, c'est un exorciste, ce mec, reconnu par le Vatican. Hein. Mais il a été un peu mis loin de tout parce que, voilà, justement, il a gêné un truc, il a dénoncé des trucs dans l'église et... ça n'a pas plu aux hautes instances, en fait. Et ce mec, il est rappelé au Vatican. Pourquoi ? Ben parce que c'est vraiment la merde. Et tu dis, ouais. Bon, ben, si le Vatican m'appelle, moi, c'est que vraiment, ça doit être la merde, quoi. Donc, on lui apprend qu'il y a une série de meurtres, en fait, dans le Vatican, qui sont sans doute causés par un démon. Donc, lui essaie de comprendre certains trucs. Et au début, bon, il est un peu réticent sur le fait que ce soit un démon, machin et tout. Et bon, allez, je vous spoil la fin du premier comic book, hein, c'est en 6 épisodes. C'est en 4 épisodes, pardon. On se rend compte de quoi ? C'est que, en fait, je connais pas les grades, hein, dans l'église, mais on va dire le cardinal lui dit non, mais il faut que je te montre un truc, par contre, il faut en parler de ça à personne. Et ce démon, il faut que tu nous en débarrasses, parce que si c'est ça, c'est la fin du monde et c'est la fin de l'église, quoi. Donc là il fait ouais bon d'accord, et puis donc il rentre dans une pièce et qui c'est qui est possédé par le démon? Et ben c'est le pape lui-même, et ça c'est énorme. Et du coup l'enquête va démarrer. En fait c'est une, t'as pas tant de fantastique que ça, t'as des entretiens par exemple avec le démon, mais c'est surtout une enquête. C'est quel démon qui est là-dedans, en fait? C'est ça qu'ils cherchent, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver au départ, et ça va déboucher sur un tas d'enquêtes, un tas de petite péripétie, et je conseille vraiment, c'est vraiment bon. Ça a été donc c'est sorti aux États-Unis exclusivement et en Espagne, et qui sait, peut-être qu'un jour ça sortira en France, hein, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un qui décide de le sortir, on ne sait pas. Bon.
Voilà. Pas du tout, ouais. On voit pas. Bon.
Voilà.
Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Tu m'as fait penser à quelque chose.
Oui.
Un vieux truc sorti. Alors, j'en avais parlé aussi, il y a fort, fort longtemps, dans nos premières aventures podcastiques. Mais je pense que c'est bien d'en reparler, parce que c'est lié à ce que tu dis. L'horreur crade, bien dessinée, ça dépend un peu du dessinateur et tout. J'ai à ma possession, alors attention, c'est Panini Comics à l'époque où ils avaient les droits de DC en France, donc ça remontait à très très longtemps.
Ah oui, ça n'a pas duré longtemps.
Et ça n'a jamais été publié, à ma connaissance, par Urban, alors qu'ils ont édité beaucoup de Hellblazer et de John Constantine, ouais. Tu vois. C'est une mini-série de John Constantine qui s'appelle Dark Entries. Tu vois, je mets à nouveau l'accent.
Putain, mais c'est dingue.
Tu vois, incroyable. Alors, à l'époque, ça coûtait 16 balles pour lecteur averti. C'était un format souple. Je crois que vous ne le trouverez plus parce que, à mon avis, il y a 3 personnes qui l'ont acheté et j'en connais une, c'est moi. Donc, je vous donne le pitch tel qu'il est mis dans la quatrième de couverture. John Constantine, le détective de l'occulte, a vu bien des choses étranges au cours de sa carrière. Non, mais rien ne pouvait le préparer à l'horreur de la télé-réalité.
Ah oui,
Dark Entries est le show télé le plus réputé du moment, mais quand la macabre maison accueillant l'émission se met à attaquer ses participants, Constantine est appelé à la rescousse. Bon, blablabla. C'est vraiment intéressant, intelligent, c'est une manière de parler. Et John Constantine, il a passé plus de temps en enfer que dans les pubs qu'il fréquente. Et ben là, c'est une manière de faire. Enfin, les démons, ils sont malins, quoi. Ils font de la télé-réalité. Hein. Je pas eu le truc, mais c'est très très simple. Non, c'est bien foutu. C'est scénarisé par Ian Rankin. Voilà, célèbre auteur Rankin, célèbre auteur de polar britannique, hein, donc voilà, absolument. Bon, on est en France, pas tant que ça. Et puis certains Werther Della Edera, qui est un dessinateur italien. Qui a fait beaucoup de choses pour en Amérique, mais qui a aussi beaucoup produit chez Bonelli et compagnie. Et donc, c'était intéressant parce que c'est un beau bébé, joufflu, pas très cher. Si vous le trouvez dans une brocante ou un truc comme ça et qu'il y a plus de 3 personnes qui l'ont acheté, puisque moi, je ne vous vendrai pas mon exemplaire, hein, n'essayez même pas d'essayer, ça vaut le coup d'être lu, quoi. Ça vaut le coup d'être lu. Ouais. Et c'est pareil, cette mise en scène horrifique avec un dessinateur qui fait du crade, hein, parce qu'il faut faire du crade et parce que ça se prête bien à l'histoire, ça vaut le coup, quoi. C'est vrai que pas tout le monde pourrait le faire, voilà. Effectivement. Et l'horreur en BD, je trouve que c'est finalement plus difficile même qu'au cinéma. J'ai toujours trouvé que l'horreur en BD, il y a des maîtres du genre.
Ah, bien sûr.
Mais je pense notamment à celui qui dessinait chez DC à un moment donné les premiers Swamp Thing.
Bon, oui, Bernie Wrightson.
Voilà, Bernie Wrightson. Oui, tu vois, je trouvais. Il faut être un grand pour faire de l'horreur. Voilà, il faut être un grand parce que créer des ambiances sur papier, c'est compliqué au cinéma, au fond, souvent. Voilà, c'est. On peut faire de l'ombre, du champ, du hors-champ, du jumpscare, enfin, si on veut céder la facilité, des litres et des litres d'hémoglobine. Sur du papier, là, c'est bien un domaine où le papier est mis en défaut par rapport au cinéma.
Il faut vraiment rentrer dans le psychologique, en fait, quand tu fais
du
papier. C'est ça. Et d'ailleurs, Roman Ritual y arrive parfaitement bien.
Ben voilà. J'en doute pas. C'est vrai que c'est vraiment compliqué, quoi. Et d'ailleurs, souvent les trucs d'horreur, bon, on avait parlé là du. Voilà, il y a d'autres trucs. Hein. On avait parlé du téléfilm là du MCU sur le loup-garou là de chez Marvel. Ouais. Ils arrivent finalement à faire quelque chose qui est pas horrifique, mais enfin avec du noir et blanc. Enfin, ils jouent sur beaucoup de codes, une péloche un peu sale. Enfin, avec. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup à regarder. Je le défends. Tu vois, ça fait 2 épisodes que je le défends, ce truc. Mais voilà.
Et puis, l'horreur de qualité à l'écran, c'est rare. Hein. Moi, je sais que je m'en tape pas mal de films d'horreur. J'ai toujours aimé ça. Enfin, j'ai toujours. Voilà, gamin. Bon, c'était l'époque aussi où il y avait de très bons films d'horreur. Mais putain, qu'est-ce que ça me fait rire maintenant. Alors, je sais pas si tu peux vraiment appeler ça des films d'horreur, mais je sais pas. Il y a que les Conjuring au cinéma que j'aime bien. Parce qu'il y a le côté enquête, tu sais, il y a le côté. Voilà. Je trouve ça pas mal. Il y a quelques épisodes qui sont pas terribles, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Parce que ça garde un côté quand même assez réaliste et assez. Enfin voilà, il y a des bons acteurs aussi, hein, faut pas déconner.
Oui, oui.
Mais la plupart du temps, ce qui se fait en horreur. Je pense à la boîte. D'ailleurs, c'est la même boîte qui fait Conjuring, mais cette boîte là qui a eu un contrat avec Spawn, là, qui vous devez faire un Spawn à un moment donné, là, c'est les mecs qui ont fait Saw, là, tu sais.
Ouais, Saw 6.
Voilà, c'est de la merde ce qu'ils font. c'est hallucinant, quoi.
Alors, c'est-à-dire, je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, l'horreur a été tellement au premier degré explorée par de très grands films qu'aujourd'hui, si tu n'y mets pas une dose de méta, ou si tu n'y mets pas un humour, par exemple de l'humour, pour contrebalancer, ou je veux dire, regarde, un truc tout con, moi, que je ne jure que par ça à la télé, en termes d'horreur, mais c'est pas vraiment horrifique, en fait, c'est les contes de la crypte. L'idée des contes de la crypte, si tu réfléchis bien, c'est que toutes les histoires dégueulasses et horrifiques sont, qui sont nerveuses, souvent bien dégueulasses, hein, sont ouais. contrebalancées par l'animateur qui te présente le truc et qui te fait la morale
oui,
à la fin.
Et il tourne ça au ridicule, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que parfois, tourner au ridicule, ça peut marcher. Ou alors, des trucs méta. Bon, il y a des gens, ils vont dire que Scream, c'est du film d'horreur. Bon, c'est du slasher, en fait, plutôt. Hein, mais, enfin, en tout cas, c'est du slasher. Mais les premiers Scream étaient intéressants parce qu'ils analysaient justement ce c'était comme un film d'horreur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une dose de méta, mais c'était avant le méta. C'est-à-dire que maintenant, il y en a un peu trop, quoi, tu vois.
Alors, est-ce que tu veux savoir un truc à mon sujet ?
Oui.
Je n'ai jamais vu un seul Scream.
Ah, tu n'as jamais vu un seul Scream ?
Non. Bien, écoute, ma femme a halluciné quand je lui ai dit, elle a failli me quitter. Mais écoute, je ne sais pas à côté de quoi je passe. Bon, apparemment, c'est énorme, mais ça ne m'a jamais intéressé, en fait.
Je pense que les premiers sont plus intéressants que ce qu'on fait maintenant, pour une raison très très simple, c'est que Scream repose en premier sur un instrument qui à l'époque était totalement original dans les films d'horreur, c'est-à-dire le téléphone portable. C'est la première fois qu'on a une utilisation du téléphone portable, de manière horrifique. Et c'est normal puisque c'est le début de l'ère du téléphone portable.
Ah oui.
Aujourd'hui, ça n'impressionnerait plus personne parce que moi je me souviens, j'avais pas de téléphone portable la première fois que je suis allé voir Scream aussi, le premier Scream.
Ah mais si, j'en ai vu un, j'ai vu le tout dernier en fait.
Bon, bah là il ne vaut que pour Jenner, tes gars. Et mais bon, c'est autre chose, mais vous pouvez aussi l'avoir chez Netflix dans la série Vendredi qui est aussi quelque chose de très très bien.
D'accord.
T'as pas regardé ? Bon bah c'est une très bonne ratio.
C'est pas mercredi plutôt.
Mercredi, oui, vendredi, ouais. C'est autre chose.
Vendredi, c'est
vendredi, c'est le moment où on enregistre nos podcasts et donc je suis crevé. Voilà, la semaine a été longue. Vendredi, voilà. Pour une publication, samedi, parce que nous, on est comme ça. Et bon, les auditeurs ne croient plus maintenant, mais c'est pas
non,
grave.
C'est
hein. Voilà, voilà. Bon, mercredi, donc Wednesday.
Wednesday.
Bon, voilà.
Wednesday.
C'est une bonne chose de là.
D'accord.
C'est une bonne pioche. En tout cas, c'est intéressant et c'est beaucoup moins ado girly que ce que j'aurais pu croire, tu vois. Donc ça me fait, j'ai trouvé ça très bien. Mais j'aime bien la famille Adams en fait.
Mais alors justement, moi j'avais peur. Alors moi, ce que j'ai entendu sur un autre podcast, alors je sais plus lequel, c'est que justement, ça enlevait un petit peu son charme à la famille Adams.
Ah ben, tu prends un des personnages finalement les plus emblématiques de la famille Adams et tu le mets dans un autre environnement. Alors, il y a quand même toute la famille qui est présente hein, dans les épisodes.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a des acteurs qui jouent et qui d'ailleurs se débrouillent très très bien, je trouve. Est-ce que ça enlève du charme ? Je sais pas parce que, la famille Adams, c'est quand même des films assez ringards des années 80. Désolé, je vais me faire détester par plein de gens. Mais,
à part moi aussi, oui. Les années 90 plutôt.
Oui, voilà, les années 90, ils sont assez durs à regarder aujourd'hui, je trouve.
Ah ben non, moi je les ai regardés encore, je les regarde tous les ans.
Ah ben écoute, tu regardes tous les ans, mais moi je les trouve difficiles à regarder, tu vois, comme ça on peut être en désaccord.
Putain, voilà, Roll Julia, il est du Roll
Julia. Bon, je suis viré, ok.
Il est énorme, Roll Julia, dedans. Enfin,
oui, d'accord, non mais les acteurs sont bons et tout, mais je trouve quand même que, voilà, ça, je trouve que ça a mal vieilli. La série télé des années 60 en noir et blanc était...
Ah, c'était regardable.
Alors, c'était inregardable aujourd'hui. Je crois que je pense qu'en VO, ça doit être mieux.
Parce moi, que je regardais que le doublage français. À un moment donné, tu sais, quand AB s'est
M6.
Barré de TF1, là.
Ouais.
AB1 a diffusé tellement pas de pognon, ils ont diffusé les trucs de la famille Adams. Putain, c'était horrible à regarder. Quoi.
Moi, je les avais regardés sur M6 aussi. M6, ouais. À l'époque des films, ils avaient justement diffusé ça. Pour remplacer Papa Schultz, pour dire à quel point ils étaient désespérés. Hein. Et la petite maison dans la prairie, à midi.
Logan
voilà, midi, voilà. Bon, bref, c'est vrai que c'était la famille Adams, voilà. Ça jouait avec les codes de l'horreur, on va dire. Bon, les illustrations, les BD d'époque sont intéressantes à regarder, ouais. Maintenant difficiles à trouver parce que aucun éditeur n'essaiera jamais de publier ça. Et c'est dommage.
Je sais même pas si c'est libre de droit ou pas, j'en sais rien.
J'en sais rien du tout moi non plus. Là, je t'avoue que je suis toujours très très étonné parce que ça mériterait quand même une redécouverte, mais alors bon voilà. Mais pas voilà. Mais bon, Allez, c'était. Allez, accordons-moi la famille Adams une chose, c'est justement pareil, c'est revisiter l'horreur d'une certaine façon avec de la comédie. Et ouais, c'était quand même assez rigolo. Ça vaut le coup. Mais honnêtement, ce que Netflix a fait était plutôt bien. Et le casting, surtout de Jenna Ortega, était pas mal.
Oui,
pas
oui,
mal
ça,
du
par
tout.
Contre.
Parce que tu sais, quand tu prends une meuf sexy et que tu la désexualises ou que tu en fais quelque chose de très différent, je trouve que ça rentre très très bien parce que voilà. C'est une meuf assez glamour, tu aurais pu faire quelque chose de très glamour et ils n'ont pas du tout joué à ça.
Ouais.
C'est mercredi.
Ouais, je ne connaissais pas tant que ça, Jenna Ortega. Peut-être je l'ai vue dans des films, mais je ne me rappelle plus. Tu vois.
Ouais, donc, elle a fait plein de choses. Elle a... c'est dans Iron Man 3, c'est la fille du vice-président des États-Unis qui trahit États-Unis pour pour que Extremis lui répare sa jambe. C'était elle.
D'accord. Voilà. Ok.
Non, tu l'as vue. tu t'en souviens plus. Ouais, comme tout le monde.
Okay. C'est bon. D'accord. Okay, bon, elle était moins comme sexy, elle avait 10 ans à l'époque.
Elle avait 10 ans, voilà. Là, maintenant, elle est plus. Là, il faut lui reconnaître que bon, voilà.
Parce que ça va tomber sur des trucs encore. Moi, je nous connais, c'est bon.
Bah, disons que si tu veux, maintenant, elle est une actrice qui sait exciter les darons. Et voilà. Mais elle joue mercredi très premier degré. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de tentative d'essayer de minauder ou de vouloir être. On va essayer de la rendre sexy quand même. Non, le personnage est. Voilà. Tu vois. Donc ça, je trouve que c'est bien. Au moins, les gens qui disent. Vous savez, je vous dirais, c'est comme quand il y a des barrières invisibles dans les jeux vidéo. Ouais, tout le monde gueule parce que c'est pas bien. Bon, mais en même temps, tout le monde joue au jeu. Voilà. Donc là, c'est la même chose. La série vaut le coup d'œil. C'est vrai qu'elle est ado compatible. Moi, j'ai testé avec l'ado que j'ai à la maison. Elle est ado compatible, donc. Mais est-ce que c'est un mal que ça soit ado compatible? Je ne pense pas. Bref, voilà. Donc c'est à essayer.
Okay.
Mais voilà. J'ai fait deux recos sans m'en rendre compte.
Alors, moi, de quoi je vais vous parler? Alors, j'hésite entre deux trucs, en fait. Je vais vous parler de ce que je voulais vous parler la semaine dernière. Donc, je suis allé donc au cinéma avec mon petit garçon qui a 9 ans. Et on est allé voir Tortue Ninja.
Ah,
forcément.
Moi aussi, tiens.
Oui, voilà.
Bon, et ma fille, qui en a 13.
Parler. Voilà, on va pouvoir en parler. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est compliqué. Alors, graphiquement, c'est superbe. J'ai trouvé que l'animation était très bonne et que les dessins, indirectement, m'ont rappelé un peu l'époque, la toute première époque des Tortues Ninja,
oui,
en fait.
Oui, oui, oui.
Par l'air d'Iceman. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que tu te dis, putain, mais jamais ça pourrait se foutre dans un film d'animation et ils y sont arrivés en fait. Alors c'est vraiment pas du copier-coller du style Eastman et Laird, hein. C'est juste que ça fait penser à ça en fait. Voilà. Et c'est super bien fait, les combats sont cool, enfin voilà. Par contre, pour ce qui est du scénario, qui doit tenir en une page, bon, ça c'est pas grave non plus.
C'est du Seth Rogen,
Seth Rogen. Hein. Je rappelle qu'il a fait Preacher. Je rappelle qu'il a massacré Preacher. Je rappelle qu'il est en train de massacrer Invincible. Et The Boys, bon, moi, j'aime bien la série. Mais bon, après, je pense qu'il va faire son Seth Rogen et qu'il va le mettre encore plus. Donc, voilà. Moi, c'est pas un mec. En tant que producteur, du moins, c'est pas un mec que j'apprécie beaucoup, Seth Rogen. Après, alors il y a un gros problème quand même, c'est les personnages. Et surtout, Maître Splinter. Alors, Maître Splinter.
Surtout en français.
Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pas aimé? Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a un sacré casting en fait. Mais.
La VF, alors, qu'est-ce c'est que peine,
j'ai. Ah putain, la VF. Qu'est-ce que j'ai pas aimé chez Maître Splinter? Alors, vous savez, bah, bien sûr, si vous avez lu les comics récents de Tortue Ninja, qui sont publiés chez IDW aux États-Unis et chez iComics, ils sont encore publiés d'ailleurs chez iComics.
Oui, ils sont publiés chez
iComics. Oui, parce qu'ils ressortent le truc là. Que, en fait, dans l'histoire, Maître Splinter était un humain. qui a vu il y a des années ou des siècles, je sais plus, qui a vu sa famille se faire tuer par Shredder, blablabla, ça amène une super histoire en fait derrière avec l'adoption de ses tortues, machin, bon bref, lui se transforme en rat, blablabla. Et ben qu'est-ce qui se passe dans le film? Et ben en fait c'était un rat au début. Voilà. Donc en fait il a pris le pitch du premier film live en fait. Sauf que dans le premier film live, il y avait une explication à la con, c'est que quand il était un rat, dans le saccage, il a vu des films de kung-fu et son maître, c'était un maître du kung-fu ou du karaté, non du karaté, je sais plus. Ouais. Et il s'est entraîné dans sa cage. Bon bref, là non, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un rat qui est tombé sur ses tortues, qui a touché le mutagène et qui a dit « Ah ben, faut que je protège mes enfants, bordel de merde, parce qu'un jour, je les ai fait sortir dans la rue, ils ont failli se faire tuer. Bon, ben écoute, je vais ouvrir des magazines de kung-fu, je vais regarder des films avec Bruce Lee, et puis je vais devenir un maître ninja, quoi. » Et donc voilà, le Splinter, c'est ça. Donc déjà, je trouve qu'on perd les trois quarts de l'histoire, tu vois, ouais. On perd les trois quarts du personnage. Et putain, la gueule qu'il a, le Splinter, mais je suis désolé, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas du tout, je trouve.
Alors, ouais.
Je sais pas, on dirait un postier à la retraite, là. Je sais pas.
ce qui est renforcé, à mon avis, par le doublage.
Ah oui,
français,
oui, oui.
Non, mais qui est catastrophique
c'est
là-dessus.
Bon, à la fin, pour vous dire, il est en couple avec une espèce de blade géante, il lui roule une pelle. Enfin, bon, c'est.
Bah, c'est alors, l'humour ça, à Seth Rogen.
Voilà, ça fait rire sur le moment, mais après, quand tu sors de la salle, tu fais bordel de merde. Mais putain, ils ont chié Splinter, quoi. C'est un truc, voilà. Et je trouve, moi, que si tu chies Splinter, tu chies sur les Tortues Ninja. Après, c'est que mon avis. Je peux pas dire que j'ai détesté le film, attention. Hein. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, le côté graphique, animation. Rien que pour ça, il faut y aller. Ouais. J'ai pas encore vu le dernier Spider-Man, mais je pense que ça doit être bon pour ça aussi, le dernier Spider-Man. Ouais. Enfin, Spider-Verse, là, je veux dire.
Ouais, Spider-Verse, ouais.
Après, n'y allez pas pour l'histoire et pour le respect des personnages, parce que vous serez déçus.
Ouais, alors moi, je pense que, si tu veux, moi, je suis sorti là en me disant, bon, ils ont tenté de réactualiser ou de d'ajouter des trucs. Reboot, quoi. Bah oui, non, mais ça, malheureusement, les Tortues Ninja ont vécu cette mode hollywoodienne qui est de relancer régulièrement. Bon, moi, je vois deux choses. J'étais dans une salle remplie de gamins, c'était une avant-première. On est allé avec ma fille, je suis en plus allé voir en 4DX et je peux vous dire que ça bouge en 4DX.
Ouais.
Et bon, bref, la question n'est pas là. Les gamins, même ma fille, enfin. Ils ont adoré. Oui. Parce que ils n'ont pas le background que nous, on peut avoir sur les Tortues Ninja. Après, j'ai vu beaucoup de gars et de parents sortir en disant « C'est moche, rendez-moi mes Tortues Ninja de ma jeunesse. »
Oui,
c'est-à-dire les trucs oui, IDH quoi. Sur France 3
dimanche soir.
Ça non plus, c'est pas les Tortues Ninja. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de versions différentes des Tortues Ninja. Moi, ce qui m'a un peu énervé, c'était... je suis sur Twitter et je vous donnerai pas mon adresse et mon truc sur Twitter, mais parce que je cherche pas à avoir de l'audience. Mais par contre, j'adore consulter. Et il y a eu quand même une...
J'adore troller comme un porc.
Aussi, j'adore troller comme un porc, mais surtout, regarder les trolls troller entre eux, je trouve ça très bien. Parce que dans Troll, il y a un troll trollé. Hein.
Ouais.
L.A.I.D. Et là, dans le design de April O'Neil, qui était selon eux absolument anormal, parce qu'ils se rappellent du dessin animé français où globalement elle était taillée comme une bombasse, hein, une pin-up.
Eh oui, mais il me semble pas qu'elle ait été taillée comme une pin-up dans les comics au début.
Dans les comics,
en tout cas, actuellement, elle n'est pas du tout taillée comme une pin-up.
Exactement, et que à la limite, vu le côté graphique de ce dessin animé, ça aurait été complètement hors sujet de faire une pin-up dans cet univers-là, déjà, d'une.
Ouais.
Après, bien sûr, bon, t'as tous les trolls racistes et qui méritent pas mon intérêt. Comment elle est pas blanche et tout, machin,
chat. Oui, en plus, elle s'appelle O'Neill, elle est irlandaise, et pourquoi elle est noire?
Voilà.
Tu sais, comme si elle n'est pas noire en Irlande.
Il semble qu'à l'époque, le dessinateur des premières Tortues Ninja s'était inspiré d'une copine, d'une nana avec qui il sortait à l'époque, qui était portoricaine.
Oui, oui,
il y a déjà aucun intérêt là-dessus. Puis, ce que je veux dire, c'est que bon, Honnêtement, moi, ça m'a pas choqué parce que je pars du principe que c'est une nouvelle interprétation. Alors, bien sûr, Splinter, il a l'air ridicule, c'est vrai. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que en dehors de Splinter, qui a vraiment l'air ridicule, la plupart des monstres, des mutants, des trucs comme ça, dans ce truc-là, ils sont vraiment dignes de films de série B, tu vois. Et ça dénote pas, ça crache pas là-dedans. Après, bon, vous avez le dernier tiers du film, comme toutes les productions hollywoodiennes actuelles, c'est nul. C'est-à-dire que globalement, ils savent pas conclure un film. Donc, quand tu sais pas conclure un film, tu fais quelque chose de complètement random pour terminer ton film, alors que bizarrement, t'as fait une introduction et un milieu de film plutôt pas mal, t'as posé des enjeux sympas et tout.
Ouais.
Voilà. Après, bon, Splinter, voilà, moi, je sais plus, c'est le
mais
mec.
Mais après,
là,
tu vois, à un moment donné.
C'est Darmon qui fait, c'est Gérard Darmon qui double Splinter.
Ouais, moi, Ah ouais, c'est Darmon.
Et oui, donc c'est pour ça que le casting de voix, il est. Tout le long, t'as l'impression d'être, tu sais, dans la bûcherie, là, sur Netflix ou des trucs comme ça. Et bon, et bien sûr, il joue le truc super fade. Et on a l'impression qu'ils enregistrent sans être devant le film.
Ouais, c'est ça.
Et alors, ça donne des shots très. Oh là là. Eh les gars, c'est Splinter, le mec il est super vénère, il est super énervé, et même s'il a appris à faire du kung-fu en lisant des revues de kung-fu et en regardant trois films, il est quand même vénère quoi, normalement.
Ouais.
C'est pas un petit vieux à la retraite.
Je sais pas s'il est vénère, mais bon.
Non, mais c'est pas un petit vieux à la retraite quoi.
Non, il est actif. Mais après, est-ce qu'il n'est pas temps pour les Tortues Ninja de faire un film sérieux sans déconner?
Ouais, je crois que c'est compliqué. Hein.
Mais c'est compliqué de quoi? Tu vas pas vendre des jouets. Hein.
Alors, ben justement,
t'en vends plus des jouets, ça n'existe plus.
Je suis d'accord, mais c'est un concept qui a été tellement galvaudé, les Tortues Ninja. Et je crois que c'est ça le problème.
Ce que je veux dire, ça t'empêche pas de faire venir les enfants aussi. Les enfants, écoute, les enfants, ils vont voir Into the Spider-Verse, qui est un film. C'est pas un film comique, je suis désolé.
Non, mais même Across. Hein.
Voilà, c'est, ouais, Across, j'ai pas vu.
J'ai vu Across, mais, moi, je l'ai vu. Hein, donc.
Mais c'est un film sérieux. Que les enfants vont voir, pourquoi? Parce que c'est Spider-Man, ok?
Oui.
Ne me dis pas que les enfants, les Tortues Ninja, c'est comme Dragon Ball. Les enfants, même s'ils n'ont jamais regardé, ils ont vu déjà les Tortues Ninja. Ils ont vu à quoi ça ressemblait. Tu mets des Tortues Ninja dans un film pour tout public, mais sérieux, les gosses vont y aller.
Oui, d'accord. Mais encore une fois, si tu compares les Tortues Ninja à Spider-Man, ça peut paraître paradoxal, mais Spider-Man a beaucoup moins été galvaudé par le licensing que n'a pu l'être les Tortues Ninja.
Ah, oui.
C'est-à-dire que globalement, les créateurs, l'air des... je sais plus que l'autre,
Eastman,
je me rappelle
Kevin
plus.
Eastman.
Kevin Eastman, voilà. Bon, ils ont pris le fric, à un moment donné, ils s'en sont plus rien
ça
eu
a
à foutre.
Plus, ça a été plus compliqué que ça, mais oui.
Donc ça a été abîmé, si tu veux, je trouve que c'est un truc qui a été longuement abîmé. Moi, quand je vois des gens qui sortent du cinéma, qui disent « Ah, c'est pas mon dessin animé de quand j'étais gosse !» Oui, mais ton dessin animé quand t'es gosse, c'était déjà de la fausse sceptique par rapport à ce qu'étaient les Tortues Ninja au départ.
C'était de la pub pour des jouets.
Pub pour des jouets, bien sûr. Ouais, on a regardé hein, quand même, hein, faut dire le truc, parce que bon, la plupart des gens de notre génération, ils n'ont pas découvert X-Man et Peter Laird. Hein. Ils ont découvert avec ce dessin animé hein, quand même.
Après, X-Man et Laird, attention, c'était pas de l'exceptionnel. Hein. Enfin, c'est pas exceptionnel ce qu'ils ont fait sur Tortue Ninja, je suis désolé.
Non, ils ont créé un concept, quoi.
La première série, je la suivais, parce que je la suivais au moment où c'était Image qui publiait.
Oui.
Et donc c'était vraiment déjà une époque assez tardive dans les temps.
C'était Mirage Comics, non, c'est pas.
C'était Mirage, ouais. Voilà. Mais c'était publié par Image.
Ouais.
Et en fait c'était très noir, quoi. C'est-à-dire que c'était au lendemain que Raphaël ait tué Shredder. Et il remplaçait Shredder. Donatello, il avait pris cher dans la gueule, il était à moitié cybernétique. Enfin, c'était un truc de fou. Mais je parle pas de mettre ça à l'écran, pas du tout.
Mais je
pense qu'il devrait s'inspirer des comics actuels, vraiment.
Il y avait une influence bon, pour quoi. Les premiers comics, tu avais une influence de Frank Miller qui était assez évidente. Hein, et du Daredevil de Frank Miller qui était assez évidente, hein, avec un côté dark, une scénographie, des combats très très travaillés. Ouais. Enfin, moi, c'est les souvenirs de ça quand je relis les. J'en ai lu un peu quand même des épisodes en noir et blanc aussi dans ma vie de Tortues Ninja, mais beaucoup plus tardivement, donc j'ai. Je pense avoir beaucoup d'influence. Mais écoute, si tu veux... Moi, je pense que finalement, c'est un peu comme Son Goku et ses multiples transformations. Chaque génération a son Son Goku. Ouais. Il y en a, c'est les cheveux noirs et petits. Il y en a, c'est les cheveux blonds et grands et papa. Il y en a, c'est les cheveux roses et tant pis pour eux.
T'imagines les itérations qu'on a eues. On a eu les premiers films. Dans le premier, moi, je le défendrai toujours, ce film.
Oui.
Le tout premier Tortue Ninja, là, il est excellentissime, ce film. Il est noir, tu vois, voilà. Moi, ma mère, elle m'a amené voir ce film, j'étais petit, je ne sais plus quel âge c'était que j'avais, ça devait être 89, 91.
Oui, c'était dans ces eaux-là, ouais.
J'avais même pas 10 ans, putain, à un moment donné, elle dit, bon, mais c'est cool, on va voir un film pour gosses, Tortue Ninja, dans les premiers trucs. Ah, oh, putain, merde, fais chier, putain, qu'est-ce que tu fous, tu casses les couilles, tu sais. Ah ouais, d'accord, bon, ok, super.
Quelle erreur!
Mais tu sais, c'était un peu cette époque où aussi ils voulaient noircir le truc des gosses. Alors je comprenais pas ça. C'est comme He-Man. He-Man, mais quand il est sorti, en fait, c'était plus proche de son concept original que du dessin animé, finalement. Mmh. Tu vois ? Même si c'était un très bon. Et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. T'imagines le truc ?
Ça explique bien des choses.
Ça explique bien des choses. Et je crois que c'était mon premier film. Alors, j'hésite entre Bambi, parce que Bambi, je sais qu'il était ressorti au cinéma et que j'avais vu petit, mais, et He-Man. Donc, je sais pas lequel c'est. Ouais. Mais Tortue Ninja, le premier film, je défendrai toujours. Deuxième film, ça a commencé à sentir le pâté. Le troisième, c'était une catastrophe. Ça a scellé la licence en plus. Hein. Les jouets se sont arrêtés là. Il y a tout qui s'est arrêté. Il y a eu un petit film d'animation entre-temps. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là.
C'est les productions Nickelodeon, là, non ça,
Non. Peut-être, mais c'était un film au ciné. Hein.
Ils ont fait des films au ciné.
Mais genre début 2000, tu vois. Un essai qui a pas marché, mais qui était plutôt bon. Il y a eu les deux films horribles là qui sont sortis, tout en images de synthèse là. Pas tout en images de synthèse.
Il y a eu aussi la série télé de chez Saiban avec la tortue féminine là.
Il y a eu un crossover Power Rangers.
C'était extraordinaire. Hein, c'est génial. Enfin, ma fille a découvert les tortues ninja avec ça.
Mais tu sais que dans les comics, la fille est revenue. Hein.
Oui. Non, mais j'en doute pas. Hein. Voilà. Un concept est un concept. On peut l'adapter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça me dérange pas. Non, mais je pense que voilà, il y a eu trop d'itérations. Donc, chacun peut dire ça, c'est mes tortues ninja, ça, c'est pas mes tortues ninja. Je crois qu'il faut être. Moi, la seule chose qui me plaisait dans les tortues ninja quand j'étais en dessin animé, quand j'étais gosse, c'était le générique. Et après, j'ai appris que c'était un studio japonais qui l'avait fait. C'est pour ça qu'il pétait un max. Mais alors, par contre, on va voir ça à l'intérieur du dessin animé. Hein, perdu là.
Ça revient à notre dernier podcast de la saison dernière. Hein. Voilà.
Oui. Ça. Ah non, mais c'était terrible de se dire que tu avais un super générique et tu te disais tu vas avoir ça à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, tu tombais de 3 ou 4 crans termes d'animation, termes de tout. Là, quoi.
C'était du 6 images par seconde.
Ah, c'était honteux. Donc les gens qui te disent ah ouais, c'est génial. Bon, si vous voulez. Après,
non,
moi,
c'était
je pense
pas génial, c'était nul.
Non, mais je pense qu'il y a l'effet nostalgie. Il y a toujours un filtre nostalgie qui fonctionne bien. Je me suis d'ailleurs battu avec des gens sur Facebook, enfin battu métaphoriquement, puisque tu sais que a été annoncé un projet de Grandizer You, une nouvelle série dans Goldorak, pour ceux qui, les trois du fond qui savent pas que Goldorak c'est Grandizer.
Ouais.
C'est quand même des anciennes de chez Gainax, avec des anciennes des séries Gundam pour les mechas. Tu prends des talents énormes, tu vois. Tu les mets là, tu regardes le premier teaser qu'ils font. Bon, on va dire qu'effectivement, Actarus, ils l'ont un peu rajeuni. Il a une petite gueule de bellâtre Jap comme on en fait aujourd'hui, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, de boys band japonais, mais. Et puis t'as tous mes sympathiques camarades sur des trucs de nostalgie, là, tu vois, genre Recrea 2, c'était génial et tout.
Ouais,
qui commencent à tirer la gueule, à dire, ah ouais, c'est pas mon Goldorak. Ben oui, c'est pas ton Goldorak, connard, mais par contre. Oui, puis surtout, c'est quand même un Goldorak, je sais pas où ira cette production, mais c'est quand même un Goldorak où ils ont décidé de mettre un petit peu la fine fleur de ce que l'animation japonaise a comme animateur. C'est-à-dire que c'est pas un projet au rabais, tu vois.
Et pour Grandizer, c'est quand même osé, parce que Grandizer, si je m'abuse, ça n'a pas eu un franc succès au Japon.
Ah ben, alors, bah, c'est la troisième partie des trilogies des robots géants de Gonagai. Hein, donc, tu as Mazinger Z, Grind Mazinger, et puis ce truc UFO Grandizer. Qui...
Ouais.
Alors, nous, on a eu que ça. Hein, donc, en France, on a vraiment eu que ça. Donc, on l'a trouvé génial et formidable. Peut-être que si on avait eu les autres, on aurait trouvé ça mieux. Mais bon, c'est un autre débat, ça. Et. D'ailleurs, dans le teaser, ils ont fait deux versions. Ils ont fait une version Jap américaine et une version française. Et dans les deux cas, ils te mettent un truc qui est vrai. Goldorak est la seule série française, diffusée en France, qui a obtenu en 81 100% de l'audimat. C'est-à-dire que quand, à l'époque, avec trois chaînes de télé, c'était
facile.
Oui,
mais c'est quand même dingue.
Mais ça veut dire qu'à l'heure où c'est passé dans Récré à 2, alors en 81, je m'en rappelle, j'étais petit, mais je m'en rappelle très bien, c'était aux alentours de 14h, 14h30, tu vois, début des émissions pour la jeunesse, il y a eu 100% des gamins, dont moi, qui regardaient la 2, parce qu'il y avait Goldorak. Une rediffusion déjà, puisque Goldorak, ça a été diffusé en France en 78, donc... 81, c'était déjà de la rediff. Mais ils ont fait 100% du truc. Donc ils te mettent en gros dans le teaser 100% de l'audience en France. Bon, tu oublies de dire que c'est en 81, tu oublies de dire qu'il y avait trois chaînes de télé et que globalement, il n'y avait pas d'autre choix. Tu voulais voir un truc cool, c'était Goldorak ou rien à cette heure-là. Hein, donc voilà. Il n'y avait pas de. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Mais par contre, voilà, ce côté nostalgique en disant « Ouais, c'est trop bien les animations en 3 images secondes, ça c'est la vie, et puis maintenant j'aime plus, ce que tu montes c'est dégueulasse. » Non, car je suis désolé, il y a des grands noms derrière et c'est pas une série au rabais, c'est juste que aujourd'hui les héros au Japon, ils ont des gueules de boys band coréens, ce qui est un peu normal, c'est ce qui se vend. Donc, voilà. Enfin, les costumes sont là, le design du robot, il est bien respecté et un peu moins rond, un peu plus lourd, un peu plus que ce qu'il était à l'époque. Donc il y a un vrai travail de fait. Mais dans la nostalgie, voilà, c'est compliqué parce qu'on a tendance à patiner les trucs.
C'est vrai. Bon, sur ce, les amis, on va y aller.
Ouais, on va y aller. On espère que
vous avez passé un bon petit déjeuner.
Ouais.
En notre compagnie. Landry, on se dit au mois prochain, dans 15 jours, du coup.
Dans 15 jours, oui.
Et puis passez une bonne semaine, une bonne deux semaines. Et puis on se dit à la prochaine. On se quitte en musique. Comme d'habitude. Allez, à plus les amis. Ciao.
À plus, ciao.
Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi fait. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Dum 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 dum. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. I am shitting on your face because the world is perfect. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine.